vendredi 12 avril 2019 et voici le quotidien des quotidiens, votre revue de presse. François Brodeur avec vous pour les 90 prochaines minutes pour vous raconter l'actualité d'une journée qui est très diversifiée. En fait, j'aurais pas assez de la journée si je voulais lire tout ce que j'ai ramassé aujourd'hui. Je commence tout de suite en vous parlant de météo. Pas celle d'aujourd'hui, celle de demain. Parce que voyez-vous, comme je lis des nouvelles, quand j'en ai des bonnes, ben... Je boude pas mon plaisir, voyez-vous. Or, demain, si vous vivez dans la région de Montréal, ça se passe sur un balcon près de chez vous, 16 degrés. 16 degrés.
Tiens.
Voilà, voilà. Non, mais je vous le dis comme ça, c'est presque un fantasme à ce stade-là. Je suis sûr qu'on va inventer le refroidissement de la planète cette nuit. Mathieu Tessier.
Oui.
Il semblerait qu'il soit passé plein de choses un 12 avril à travers l'histoire.
Je travaille avec une feuille 8,5 par 11, alors je n'ai de place que pour quelques éléments. Mais oui, c'est passé des trucs dans l'histoire. Si je remonte, en fait, commençons par dire que nous sommes la journée internationale du vol spatial habité.
OK, vol spatial habité.
Oui,
et par là, on ne veut pas dire voler l'espace, comme on tente de le faire actuellement. Plusieurs grandes puissances.
Exact. Non, en fait, c'est qu'en 1961, Yuri Alexeïvitch Gagarin, à 27 ans, est le premier homme à voyager en orbite. Il revient après 90 minutes et un tour de la planète.
Et je ne vous dis pas l'électrochoc que ça a été aux États-Unis à l'époque, électrochoc qui a conduit au programme Apollo et à la conquête de la Lune par les Américains parce qu'on s'est senti profondément humilié. C'est les Russes qui ont été en premier dans l'espace.
Après Spoutnik et beaucoup de... Oui, mais effectivement. Mm-hmm. Donc, 1864, bataille de Fort Pillow pendant la guerre de sécession, conduisant à la mort de nombreux soldats noirs, considérés comme un massacre. Le Nord accroît son soutien donc à la guerre en conséquence. 1893, inauguration de l'Olympia, salle de spectacle mythique à Paris. 1917, lors de la Première Guerre mondiale, les forces canadiennes prennent la crête de Vimy. C'était en 1917, un 12 avril.
Ce qui devait être une opération de diversion à l'origine et qui est devenue la seule victoire de la grande opération prévue sur le front à ce moment-là.
1917, toujours, le droit de vote est accordé aux Ontariennes. 1954, enregistrement de Rock Around the Clock de Bill Haley and the Comet, première chanson de rock'n'roll à atteindre la première place du Billboard chart qui... mon micro cachait le reste de mon texte, qui en fait l'hymne du rock'n'roll. 1960, en finale contre Toronto, Maurice Richard marque son dernier but pour le Canadien de Montréal qui gagnera la Coupe Stanley. 1980, Terry Fox entame son marathon de l'espoir. 1981, premier vol d'une navette spatiale américaine Columbia. 1996, Yahoo, 2 ans après sa naissance, réalise son offre publique d'entrée en bourse. La cathédrale de Turin, quant à elle, toujours le 12 avril, mais en 1997, est dévastée par un important incendie, mais les pompiers réussissent à sauver le Saint-Suaire des flammes. Et en 2002, Hugo Chavez, président du Venezuela, est brièvement chassé du pouvoir lors d'un coup d'État. Et pour ce qui est des naissances, nous avons 1940, Herbie Hancock, compositeur de musique un Américain. 1941, Donald Pilon, acteur québécois. Et David Letterman, en 1947, animateur, humoriste et producteur de télé américain. Et pour ce qui est des décès, Franklin Delano Roosevelt, le 32e président des États-Unis, est décédé le 12 avril 1945. Joséphine Baker est décédée en 1975. Et Michel Chartrand en 2010, donc je rappelle, syndicaliste et homme politique québécois, qui était né, lui, le 20 décembre 1916. C'est tout.
Ah ben c'est déjà beaucoup, merci. Ouais. Avant d'aborder les pages de la presse, on fait le point sur les pannes de courant qui ont suivi la dernière et déprimante tempête de neige du mois d'avril, disons-le franchement. Eh bien, à l'heure où l'on se parle, ça va plutôt bien puisqu'il resterait 1173 clients sur 4 335 000, d'après ce que je viens de vérifier chez Hydro-Québec. La majeure partie sont dans la région de la capitale nationale, 847 sont encore sans électricité. Et pour vous donner une idée, en Mauricie, sur 163 000 clients, il y a encore un client qui n'a pas été rebranché. Si j'étais ce gars-là, je le prendrais personnel et je réviserais mon vote. Bon, alors c'était en exclusivité dans la presse. Sol contaminé, Québec suivra chaque pelletée de terre, ce que rapporte Vincent Larouche. Traçabilité des camions par GPS, plateforme informatisée, amende salée. Le gouvernement Legault sort l'artillerie lourde pour stopper le saccage écologique. Le gouvernement Legault annoncera finalement ce matin la fin du laisser-faire dans la gestion des sols contaminés. Des contrôles stricts seront imposés pour que chaque pelletée de terre soit dorénavant suivie par GPS. Le but est de stopper avant l'automne le saccage écologique causé par les déversements illégaux dans nos campagnes ces dernières années. Ceux qui refuseront d'embarquer dans le nouveau système de traçabilité seront passibles d'amendes de plusieurs millions de dollars. Ça faisait un certain temps que la situation pourrissait, a reconnu le ministre de l'Environnement Benoît Charrette en entrevue avec la presse hier. Creusé sur un chantier en ville en 2019, c'est remué des centaines d'années d'activités humaines, anciennes usines, réservoirs de mazout, pompes à essence, stationnements, dépôts de charbon, dépotoirs, ont laissé leurs traces dans la terre qui a absorbé au fil du temps une panoplie de métaux lourds, hydrocarbures et autres résidus potentiellement toxiques. Envoyer les sols excavés dans un centre agréé pour qu'ils soient décontaminés ou enfouis écologiquement coûte cher. Pour économiser, plusieurs acteurs malhonnêtes du milieu cherchent plutôt à s'en débarrasser discrètement dans des sites illégaux à la campagne, notamment en milieu agricole, comme l'ont révélé plusieurs reportages de la presse depuis 2016. C'est réellement une économie parallèle illégale qui s'est développée en force au cours des années, dit-il. Pour le ministre, ces déversements sauvages constituent un des principaux générateurs de contamination actuellement au Québec. On le sait, le gouvernement Legault a fait une promesse et même une politique de récréation dans les écoles au Québec. En fait, on veut au moins 40 minutes de réclamation par jour. De récréation, oui, de récréation. 40 minutes de récréation par jour. Et les commissions scolaires disent « OK, c'est très, très bien ça, mais il va quand même falloir payer la note parce que qui dit récréation dit surveillant. Puis si on prend les enseignants pour faire de la surveillance pendant la récréation, bien, ils ont moins de temps pour faire leur travail en enseignement et en accompagnement des élèves. » Donc, les commissions scolaires ont chiffré le coût de ça et demandent 20 millions au gouvernement provincial pour financer la mesure au surplus. Et ça, ça témoigne vraiment de l'état des écoles, notamment dans la région de Montréal. Plusieurs écoles disent, c'est bien joli, 20 minutes de récréation par jour, mais on n'a pas une cour d'école suffisante pour ça. Ça peut être parce que la cour est structurellement trop petite ou parce qu'il y a des roulottes dedans pour enseigner, voyez-vous. Alors, ils voudraient que certaines écoles soient exemptées en considération de l'aménagement physique de l'institution. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il y a un professeur qui nourrit la polémique ces temps-ci, ce que rapporte Philippe Mercure. Un professeur de l'UQTR multiplie les propos anti-vaccins. Au moment où la ville de New York tente d'endiguer une épidémie de rougeole alors que les autorités de santé publique du Canada disent vouloir agir contre le mouvement anti-vaccin, un professeur de biochimie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Christian Linard, multiplie les propos contre la vaccination sur sa page Facebook personnelle, une situation dénoncée par plusieurs intervenants. La vaccination est liée à l'autisme. Elle a déjà été utilisée pour stériliser des populations en Afrique. Elle représente une opération irréversible, dangereuse et non étudiée. Alors que l'Organisation mondiale de la santé considère la méfiance à l'égard des vaccins comme l'une des 10 principales menaces à combattre cette année, un professeur de l'Université du Québec à Trois-Rivières multiplie les propos négatifs sur la vaccination. Entre le 14 mars et le 11 avril, Christian Linard, professeur de biochimie clinique rattaché au département de chiropratique, a publié ou partagé 17 commentaires ou études qui abordent la question des prétendus dangers des vaccins, mettent en doute leur efficacité ou prônent le libre choix de la population face à la vaccination. Aucun propos positif sur les vaccins n'a été relayé pendant cette période. En fait, la presse n'en a trouvé aucun dans l'ensemble des publications Facebook de M. Linard. Ces publications soulèvent l'inquiétude des experts en immunologie consultés par la presse. C'est irresponsable de sa part de relayer seulement les articles qui montrent que les vaccins sont terribles. On sait pourtant que les vaccins sauvent des vies, c'est indiscutable, tranche le Dr Brian Ward, professeur au département de médecine et expert des vaccins à l'Université McGill. Le Dr Ward estime inacceptable que Christian Linard occupe un poste de professeur dans une université québécoise. Il doit perdre son emploi, dit-il. Partout sur la planète, la méfiance envers les vaccins cause des maux de tête aux autorités de santé publique. L'Organisation mondiale de la santé rapporte que les cas de rougeole sont en augmentation de 30 % dans le monde depuis 2016, y compris dans plusieurs pays où la maladie avait été éradiquée ou était en voie de l'être. Plusieurs facteurs sont en cause, mais les fausses informations qui circulent sur les vaccins sont montrées du doigt par l'OMS. Christian Linard se défend pourtant d'être anti-vaccin. Il n'accorde aucune crédibilité aux avertissements de l'OMS selon lesquels les fausses informations sur les vaccins mettent les populations à risque, en invoquant notamment que les têtes dirigeantes de l'OMS seraient liées à l'industrie pharmacologique. Allez, c'est le printemps, on se dit comme ça, mine de rien, que le beau temps va revenir et avec le beau temps poussent les fleurs et les cônes oranges, disons-le franchement. Bien, sachez que la ville de Montréal a décidé de mettre la pédale un peu plus douce sur les chantiers, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne devront pas être faits, mais on ne va pas tous les faire cet été et en même temps, ce qui asphyxierait le centre-ville, voilà, je l'ai dit. Un chantier sur deux reporté à Montréal, Pierre-André Normandin, La Presse. Montréal lève le pied de l'accélérateur. Alors que la métropole augmentait d'année en année le nombre de chantiers, l'administration Plante juge que la coupe est pleine. Un chantier sur deux prévu à l'été a ainsi été reporté pour éviter de paralyser le centre-ville. On a refusé un nombre record de chantiers, a indiqué Sylvain Ouellet, élu responsable des infrastructures, au moment d'annoncer les travaux prévus à l'été. Puisque les rues, aqueducs et égouts de Montréal avaient longtemps été négligées, la métropole avait entrepris depuis 2013 de rattraper son déficit d'entretien. On avait ainsi décidé d'augmenter la cadence des travaux d'année en année et ce jusqu'en 2024, imaginez. Mais le rythme n'est plus soutenable, estime Sylvain Ouellet. D'autant moins que la ville de Montréal n'est pas la seule à devoir rénover ses infrastructures. La Société de transport de Montréal, le ministère des Transports, Hydro-Québec et les entreprises comme Énergie Rebelle font de plus en plus de travaux. Tout le monde est en rattrapage, alors on a dû faire des choix, a résumé Sylvain Ouellet. Montréal calcule avoir refusé une demande de permis sur deux. L'administration Plante dit ainsi vouloir éviter d'alourdir davantage la congestion au centre-ville où se concentrent les besoins en travaux. Ça ne veut pas dire que les chantiers ne seront jamais faits, mais on les reporte dans le temps. C'était inévitable pour l'activité économique du centre-ville, a estimé Sylvain Ouellet. Ce virage ne signifie pas que Montréal mènera moins de chantiers. Il prévoit simplement maintenir le rythme observé en 2018. Rappelez-vous, il y en avait quand même un et un autre. Impossible d'en faire moins en raison de l'état des infrastructures. On est à l'aube des élections provinciales en Alberta où, sauf erreur, le gouvernement Notley devrait tomber puisque les conservateurs et la droite se sont réunis au sein d'un seul parti. Je vous rappelle que c'est la division des deux partis qui avait permis l'élection du NPD à la dernière élection. Alors, le chef du Parti conservateur fédéral, Andrew Scheer, en profite pour faire un amalgame entre Justin Trudeau et Rachel Notley, histoire de bien marquer une espèce d'alliance de la gauche infernale à lire dans la presse.
Seront des marques, baby. Elle aura eu ses rayons de feu. Immobile devant ses contre-jours, baby. Elle est comme le soleil le midi. Ma tête tourne et je m'évanouis, baby. Elle aura eu. Oh, elle aura eu. Elle aura eu ma peau.
Nouvelle chanson du chanteur Auguste, c'était Coconut.
Merci Mathieu Tessier. Mathieu Tessier qui assure donc la direction musicale et la mise en onde de cette émission et qui s'assure que je dis pas trop d'idioties, ce qui est déjà un très large mandat, voyez-vous. Donc, dans les pages du Devoir, Rouler des mécaniques, c'est le titre de l'éditorial de Robert Dutrissac qui nous parle du litige entre Bell et Vidéotron. Mécontent des redevances que lui verse Bell pour ses chaînes spécialisées, le président de Québecor, Pierre-Carl Péladeau, a décidé de priver son concurrent du signal de TVA Sport qui diffuse en français et en exclusivité des matchs éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Quelques 400 000 abonnés à TVA Sport, par le truchement de Bell, ont été privés de leurs matchs en français mercredi. Au palais de justice jeudi, la trêve un moment offerte par Québecor fut écartée par les deux parties toujours à couteau tiré. Pendant cette trêve, les belligérants se seraient engagés dans une médiation chapeautée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC. Québecor se plaint que les tarifs que commandent ces chaînes ne sont pas fixés en fonction de l'intérêt que leur manifestent les téléspectateurs, alors que les chaînes de Bell sont avantagées par un critère historique appliqué par le CRTC parce qu'elles ont été lancées il y a plus longtemps. En outre, Québecor allègue que la chaîne TVA Sport n'est pas offerte dans un forfait aux clients de son concurrent, à l'instar de RDS, propriété de Bell. En vertu des règles du CRTC, le propriétaire d'une chaîne télévisée, soit le groupe TVA pour TVA Sport et l'entreprise de distribution, en l'occurrence Bell, doivent signer une entente d'acheminement à l'amiable. En cas de différend, le CRTC est appelé à trancher. Dans une telle circonstance, Québecor a déposé en février une plainte contre Bell pour préférence indue. Les deux parties sont dans l'obligation de continuer à fournir le service aux abonnés qui ne doivent pas faire les frais du différend commercial, surtout pas pendant les séries. C'est ce que le CRTC a rappelé dans une lettre envoyée à Québecor mercredi. Avec la brutalité qui peut parfois le caractériser et qu'il estime inévitable si on doit changer les choses, on l'a vu avec son recours à de longs lock-outs dans ses journaux, Pierre-Carl Péladeau, en privant les abonnés de Bell du signal de TVA Sport, a fait fi des règles du CRTC. D'ailleurs, l'organisme ne semble pas entendre à rire. Il a convoqué les dirigeants du groupe TVA et de Bell à une audience publique mercredi prochain à Gatineau afin de déterminer si son règlement a été violé et d'entendre les raisons pour lesquelles le Conseil ne devrait pas suspendre la licence de radiodiffusion du groupe TVA. Si le président de Québecor voulait s'assurer que le différend entre son entreprise et Bell obtienne un retentissement médiatique maximum, ces médias s'y sont d'ailleurs scrupuleusement employés, son objectif est remarquablement atteint. Il faut toutefois reconnaître que ce différend est somme toute secondaire par rapport au défi énorme qui attend le système canadien de télédistribution et de production télévisuelle face à la concurrence déloyale des Netflix de ce monde. C'est d'ailleurs le message que Pierre-Carl Péladeau avait récemment livré avec conviction dans des allocutions, à Montréal puis à Ottawa. La vraie bataille, elle est là. Et puisque je vous parle de ce litige, je ne peux pas éviter de vous parler des caricatures du Journal de Montréal et du Devoir qui sont, mais presque identiques. Y et Gabou et Garnotte ayant eu les mêmes idées. On y voit sur une glace de hockey deux joueurs qui se battent, l'un de l'équipe Québécois, et c'est Pierre-Carl Péladeau, et l'autre de l'équipe Bell. Bon, dans le Journal de Montréal, pour une rare fois, on est un peu polémique, ils ont simplement jeté les gants et se regardent avec agressivité, mais il reste que ça se ressemble, mais vraiment étrangement. On a l'impression que dans la réforme de l'industrie du taxi actuellement à l'étude, le grand oublié, c'est le transport adapté. Mylène Crête s'est penchée sur la question. Taxi, une réforme bonne pour le transport adapté? Et c'est une question. La réforme de l'industrie du taxi pourrait-elle améliorer les services aux personnes handicapées? Certains le croient. L'industrie avait besoin de se moderniser, a affirmé le président de l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec. C'est une bonne chose, c'est positif. L'association qui représente 82 organismes dans ce domaine a rencontré le ministre des Transports, François Bonnardel, jeudi, avant de témoigner en commission parlementaire quelques heures plus tard. Elle croit que l'abolition des territoires d'agglomération auxquels les chauffeurs étaient soumis pourrait permettre aux municipalités d'améliorer les services dans les régions où ils sont inadéquats, voire inexistants. Le projet de loi 17 propose de la concurrence, a expliqué Marc-André Avoine, qui est également directeur des services des transports pour la MRC de Montcalm, dans la Naudière. « Chez nous, je n'ai pas de taxi adapté pour les fauteuils roulants », a-t-il offert à titre d'exemple. Il y a des MRC voisines qui en ont, mais je ne peux pas signer de contrat avec elles. Il espère que la fin du monopole que certaines entreprises de taxi ont dans certaines régions pourra aider à régler ce type de problème. Les députés des trois partis d'opposition qui siègent à la commission parlementaire ont tous émis des doutes, puisque le projet de loi 17 ouvrira l'industrie du taxi à des services comme Uber qui n'offrent pas de transport adapté. Le député libéral Gaétan Barrette croit plutôt que de nombreux taxis seront appelés à disparaître hors des grands centres avec la destruction définitive du modèle traditionnel de leur industrie. Il y a des compagnies de taxis qui vont faire faillite, donc il y aura moins d'offres, a-t-il anticipé en entrevue. La députée de Québec solidaire, Huba Gazal, ne croit pas, elle non plus, que le projet de loi 17 réglera le problème de service inégal d'une municipalité à l'autre. On ne fait pas d'argent avec le transport adapté, a-t-elle constaté. La crainte, c'est que ce ne soit pas assez rentable et qu'on n'offre plus de services aux personnes les plus vulnérables. Le projet de loi 17 pourrait également nuire à la qualité du service, selon le député du Parti québécois, Joël Arsenault. Les conducteurs de taxi ont aussi un rôle d'accompagnement des personnes les plus vulnérables, parce que le transport adapté, ce ne sont pas que des gens qui ont des problèmes de mobilité. Il y a des gens qui ont des déficiences intellectuelles, a-t-il expliqué en entrevue. Donc, des clientèles qui ont besoin d'un service régulier, d'un accompagnement, d'une relation d'aide avec le chauffeur, souvent qui s'établit. La Fédération des chambres de commerce du Québec, la FCCQ, avait signalé la veille en commission parlementaire l'absence du transport adapté dans le projet de loi du ministre Bonnardel. Éric Desrosiers s'interroge sur la source des difficultés du pétrole albertain. Les principaux problèmes de l'industrie pétrolière albertaine ne sont pas le manque de pipelines ni les taxes sur le carbone, et il se peut fort bien qu'ils ne fassent qu'empirer. L'industrie pétrolière se porte mal au Canada, à ce point importante dans l'économie du pays que sa devise est souvent qualifiée de pétrodollar, elle devient existentielle en Alberta où le secteur des énergies fossiles et des mines compte pour le quart de l'économie et influence plus ou moins directement une bonne partie du reste. Il n'est pas étonnant, dans ce contexte, que ces malheurs y aient pris toute la place durant la campagne électorale provinciale qui culminera avec le vote de mardi. On a répété à satiété des idées souvent tenues pour des évidences et voulant que tout cela soit essentiellement la faute du manque de pipelines pour exporter la ressource vers les marchés étrangers ainsi que des taxes sur le carbone et autres réglementations environnementales qui découragent les investisseurs. Mais les principaux problèmes sont ailleurs. Plutôt que d'accabler le gouvernement Trudeau pour ne pas avoir dégainé ses milliards d'aides plus tôt, ou encore la Colombie-Britannique et le Québec pour s'être opposés au passage de nouveaux oléoducs sur leur territoire, les Albertains devraient regarder au sud de la frontière, où la révolution du pétrole de schiste a plus que doublé la production depuis 2011, passé de 5,5 millions de barils à 12 millions par jour, soulignait le mois dernier à la publication numérique de Narwhal, le chercheur du Center for International Governance Innovation et ancien économiste en chef de la banque CIBC, Jeff Rubin. À portée de la main, en plus d'être moins cher à extraire et à raffiner que le pétrole des sables bitumineux albertains, le pétrole de schiste américain s'impose comme un choix évident pour les raffineries américaines vers lesquelles il se dirige l'essentiel des exportations canadiennes, surtout depuis la chute des prix mondiaux en 2014. On fait une courte pause et on aborde ensuite le Journal de Montréal et plein d'autres nouvelles. Restez là.
Sur le chemin de la guerre, le soleil s'allume et s'éteint dans un vieux taxi jaune et noir. Je veux te tenir la main pour freiner les secondes. Le même refrain qui me ramène à Londres encore. Défile tous les souvenirs, j'arrive à peine à croire que je dois déjà repartir à l'autre bout du monde. Le même refrain qui me ramène à Londres encore. On s'invite à la danse, les yeux mouillés, le cœur en fanfare. On se regarde en silence pour pas que le rêve s'effondre. Même si au loin j'entends le train qui gronde encore. Je visouille la Seine, mais la nuit il fait froid. Et tout ce que j'aime me glisse entre les doigts. Même si les mots, même si la musique me prend dans ses bras. Qui m'attrapera si jamais je tombe? Sur le chemin de la gare, le soleil s'allume et s'éteint. Dans un vieux taxi jaune et noir, je reviendrai comme un refrain. Yeah, yeah. Je reviendrai comme un refrain.
Le chemin de la gare, Pétula Clark, de son album Vue d'ici.
Et je vous rappelle que vous écoutez Le Quotidien des Quotidiens, François Brodeur avec vous. On passe sans plus attendre au Journal de Montréal. Et là aussi, on commence avec l'éditorial, celui de José Legault, qui commence par une petite annonce, tiens, et un titre évocateur, « Chacun cherche son chef ». Avis de recherche, parti politique vieux de 152 ans, aime beaucoup le pouvoir, capable du meilleur et du pire, mais dont le vote francophone lui échappe, cherche désespérément sa prochaine ou son prochain chef et peut-être même une nouvelle vision, mais pas trop. Signé Parti libéral du Québec. Face à la CAQ de François Legault et possiblement pour un bon moment, le PLQ est en deuil de sa véritable raison d'être, le pouvoir. À peine un francophone sur dix l'appuie encore. Manque de chance, le prometteur et jeune ex-ministre André Fortin se désiste de la prochaine course pour des raisons familiales. S'il n'y a pas lieu de douter de son cœur de père, la perspective d'une longue traversée du désert à l'opposition ne le réjouissait sûrement pas non plus. On a beaucoup parlé du Parti québécois qui, depuis le dernier référendum, erre de virages inutiles en graves erreurs stratégiques. Le tout au détriment de son option souverainiste. Le PLQ n'est pas en bien meilleur état. N'eût été sa base anglophone inconditionnelle qui sait jusqu'où il aurait glissé au scrutin du 1er octobre dernier. Les effluves de corruption de l'ère Charest, la gouvernance inepte de l'ère Couillard et son antinationalisme féroce ont fini par lasser l'électorat. Sur le projet de loi 21 sur la laïcité, les réflexes du chef intérimaire Pierre Arcan rappellent la méthode Couillard. Blâmer le gouvernement Legault pour les déclarations incendiaires du maire de Hampstead, William Steinberg, n'était pas l'idée du siècle. Heureusement, il a rectifié le tir. Bref, les libéraux peinent à tirer les leçons de leur défaite historique. Pour la prochaine ou le prochain chef, insuffler un vent nouveau sur un parti enferré dans ses pires travers ne s'annonce pas chose facile. Or, comme pour le PQ, la clé de la reconstruction du PLQ réside dans sa capacité de retourner toutes les pierres, incluant celle de son progressisme oublié et de son nationalisme enterré depuis le départ de Robert Bourassa. Après avoir défroqué de la CAQ, l'ex-ministre Dominique Andelade, candidate plus que probable à la chefferie, en serait-elle capable? Étant aussi un pur produit du sérail Couillard, le doute est permis. Et la nouvelle députée de Saint-Laurent, Maroise Risky, contrairement à Mme Andelade, Mme Risky donne des sueurs froides à l'establishment libéral, déjà un bon signe. Grande pourfendeuse des paradis fiscaux, au verbe détonnant, elle dérange. Son habitude audacieuse de critiquer publiquement l'héritage de M. Couillard donne de l'urticaire à plusieurs libéraux. Pour ces mêmes raisons, elle représente pourtant le seul vrai coup de pied au derrière dont le PLQ aurait besoin pour se sortir de sa longue léthargie. La grande inconnue étant à savoir si Mme Risky aurait suffisamment la fibre nationaliste pour séduire une partie de l'électorat francophone de la CAQ. Jusqu'à preuve du contraire, le doute est également permis. Alors qui? Une seule chose est sûre, comme au PQ, en quête lui aussi d'un nouveau chef, les sauveurs sont définitivement en rupture de stock. Vous rappelez-vous de ce fleuron du plan Nord de Jean Charest qui était la mine de Stornoway, les diamants du Nord du Québec? Eh bien, ça va mal. Jean-François Cloutier en parle. Une mine de diamants pourrait coûter 500 millions aux Québécois. Près d'un demi-milliard d'argent des Québécois est en péril dans une mine de diamants fortement déficitaire qui pourrait avoir épuisé toutes ses liquidités d'ici la fin de l'année. Depuis plusieurs mois, les nuages noirs s'accumulent sur ce qui était présenté par l'ancien gouvernement libéral comme un projet phare du plan Nord. La mine de diamants de la compagnie minière Stornoway dans les monts Otish, au nord de Chibougamau, avait été vantée par le gouvernement de Jean Charest et faisait partie des 11 projets initiaux liés au dévoilement du plan Nord en 2011. En 2014, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, s'était même rendu sur place pour parler d'un signal très clair de la relance du plan Nord. Le projet a nécessité 1 milliard en investissement, dont près de la moitié provient des poches des Québécois. Il s'agit de prêts et d'achats d'actions faits par Investissement Québec, la Caisse de dépôt et le Fonds FTQ. En plus, le Québec a payé en grande partie les 252 millions nécessaires pour prolonger la route 167 vers la mine. 5 ans plus tard, la valeur en bourse de Stornoway n'est plus que de 97 millions, soit 10 fois moins. Le titre de l'entreprise s'est aussi effondré de 90 % pendant cette période. Stornoway a déclaré des pertes de 329 millions en 2018. Si la direction est incapable d'obtenir un nouveau financement, l'entreprise pourrait être incapable de poursuivre ses activités, lit-on dans les états financiers de la fin mars. C'est à partir de l'ouverture de la mine en 2016 que les ennuis ont commencé. Oui, c'est généralement là que ça commence à aller mal. Les diamants extraits sont plus petits et moins beaux que prévu. L'équipement s'est avéré inadéquat. La machinerie brisait de gros diamants qui auraient pu être vendus plus cher s'ils étaient restés intacts. Le prix des diamants sur le marché mondial est inférieur à ce qui était projeté. En 2015, une présentation de la firme parlait d'un des meilleurs projets de diamants en développement au monde. C'était un projet correct, tout au plus, nuance Georges Beaudoin, professeur titulaire en exploration minière à l'Université Laval. Mais voilà, c'était aussi un projet qui s'inscrivait dans une politique agressive, le plan Nord, rappelez-vous. L'Ontario demeurera dans le rouge pour 5 ans. Eh oui, le gouvernement Ford renonce à établir l'équilibre budgétaire. Remarquez le beau jeu, il va reprocher ça pendant 5 ans aux libéraux et son électorat est déjà convaincu que tout est de la faute du gouvernement précédent, donc ça va bien aller. Le gouvernement ontarien de Doug Ford se donne 5 ans pour équilibrer le budget de la province la plus populeuse du Canada, si bien qu'il n'y arrivera pas d'ici la fin de son mandat. Dans leur prochain budget dévoilé jeudi à Queen's Park à Toronto, les conservateurs ont indiqué que le déficit pour l'année 2018-2019 s'élèvera à 11,7 milliards, soit 3,3 milliards de moins que prévu. L'équilibre budgétaire ne devrait pas être possible avant l'exercice 2023-2024, moment où le gouvernement Ford s'attend à dégager un léger excédent. Il y aura eu entre-temps des élections générales. Nous rétablissons la viabilité des finances du gouvernement afin de protéger l'essentiel, a dit le ministre des Finances, Vic Fedeli, qui n'a annoncé aucune hausse de taxes et d'impôts. Guillaume Saint-Pierre nous parle de la communauté franco-colombie-britannienne ou colombienne. Je ne sais plus, d'un coup, le gentilé de la Colombie-Britannique, Mathieu.
Bonne question, c'est moi qui est supposé de vous empêcher de dire des bêtises, mais là, vous me prenez court.
Donc, de l'espoir pour les francophones de la Colombie-Britannique. La Cour suprême a accepté aujourd'hui d'entendre la cause des francophones britanno-colombiens qui réclament depuis des années un financement adéquat de leurs écoles. Oui, ça m'est revenu pendant que je le lisais. La saga judiciaire opposant le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et la Fédération des parents francophones de cette province date de 2010. Les plaignants soutiennent que la province de l'Ouest a violé leur droit à l'instruction en français garanti par la Charte canadienne en sous-finançant leur système éducatif. Les franco-colombiens réclament quelque 300 millions pour déployer un système d'éducation digne de ce nom. Ils ont essuyé une cuisante défaite en première instance en 2016. Le juge Laurel Russell avait alors ordonné à la province de verser un maigre 6 millions pour du transport scolaire. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a confirmé ce jugement l'automne dernier. La Cour suprême du Canada accepte ainsi de se pencher sur cette question cruciale pour l'avenir de la minorité francophone britanno-colombienne. Voilà. Et j'en profite pour vous dire que c'est quand même pas la première fois que cette communauté-là doit monter en Cour suprême pour améliorer son système scolaire qui était quand même sous-financé.
J'ai rien à dire, tout à refaire, mais dans mon sac y'a des mensonges. J'ai pas d'affaires et sans papier, j'exerce le difficile métier. J'aime pas les rimes, j'aime pas les vers, j'ai la tête qui fonctionne en vrac. Je dois partir à mon concert, y'a du billet vert dans l'air. Je suis chanteur, crooner. Et parfois, mauvais joueur, je suis rocker, moqueur. Et parfois, joker, même si je ne triche jamais au poker. Y'a rien à dire, alors je chante. Pour oublier que j'ai rien à dire, je ne vis pas, alors je bois. Pour oublier que je digère pas, je me nourris de ma fumée. Comme ça la boucle est bien bouclée. Le sale boulot, je le laisse aux autres. Je m'entoure pour être bien pépère. Je suis chanteur, crooner. Et parfois mauvais joueur, je suis rocker, moqueur, et parfois joker, même si je ne triche jamais au poker. Je suis mauvais, plutôt bon joueur, mais je m'en sors pas trop mal, comme quoi. Je vois la vie comme j'ai envie, la vie comme elle est me plaît pas. Et si je m'en sors face au problème, c'est toujours en tapant du pied. Je suis la mode en différé sur le cul de mon canapé. Je suis chanteur, crooner. Et parfois, mauvais joueur. Je suis rocker, moqueur. Et parfois, joker. Je suis chanteur, crooner. Et parfois, mauvais joueur. Je suis rocker, moqueur. Et parfois, joker. Même si je ne triche jamais au poker.
François, avez-vous reconnu le chanteur?
Oh, en fait, j'ai pas fait attention.
Eh bien, merci à Christiane Campagna de m'avoir fait découvrir cet album. C'était Dick Rivers et Le Mauvais Joueur.
On passe immédiatement à la presse régionale, en commençant par La Tribune. La Tribune qui se penche sur l'angoisse d'un couple qui se voit vieillir, mais qui doit quand même prendre soin d'un enfant handicapé majeur à la maison, ce qui est quand même quelque chose d'assez répandu. Le temps presse pour un couple de septuagénaires, Simon Roberge. Lucien et Solange Jacques sont à bout. Ils s'occupent de leur fille lourdement handicapée depuis 46 ans et ne peuvent plus, à respectivement 79 et 76 ans, continuer de le faire tout en entretenant leur maison. Ils ont fait une demande pour que leur fille Brigitte soit prise en charge, mais le temps presse. Solange Jacques a subi 3 opérations pour le cancer dans la dernière année et demie et vient tout juste de terminer un 25e traitement de radiothérapie. Son mari Lucien sera très prochainement opéré aux 2 genoux. Le couple qui habite le secteur d'Auville n'a tout simplement plus l'énergie de s'occuper de Brigitte. Cette dernière a manqué d'oxygène à la naissance, ce qui a causé une paralysie cérébrale. Elle fait aussi des crises d'épilepsie. Elle porte des couches et est incapable de manger seule. Lucien et Solange Jacques ont donc fait une demande en février pour que leur fille soit placée dans un centre spécialisé. 2 mois plus tard, la situation n'avait toujours pas changé. Ils ne pouvaient pas nous dire combien de temps ça allait prendre, 3 mois, 3 ans ou même 5 ans, se désole Lucien Jacques. Une préposée vient 3 fois par semaine donner le bain à Brigitte. La maison Caméléon de l'Estrie offre aussi des périodes de répit. Les autres enfants du couple peuvent donner un coup de main, mais ce n'est pas une solution durable. On peut quand même manquer notre travail une journée pour dépanner si notre mère est hospitalisée, mais reste que c'est un problème, souligne Mélanie Jacques, la fille de M. et Mme Jacques. Physiquement, mes parents vieillissent. Ils ont été 46 ans à s'en occuper. Lucien et Solange Jacques veulent également vendre leur maison, mais ne peuvent pas tant et aussi longtemps que Brigitte sera sous leur responsabilité. On veut vendre, mais on ne peut pas aller en appartement avec Brigitte, explique Solange Jacques. Elle crie souvent et cogne son lit sur le mur la nuit. Coïncidence ou non, le dossier a semblé débloqué lorsque la Tribune s'y est intéressée. Le CIUS de l'Estrie a communiqué jeudi avec la famille et une place temporaire en CHSLD à Magog semble avoir été trouvée pour Brigitte en attendant de trouver une famille d'accueil. Au moment d'écrire ces lignes, on ne connaissait toutefois pas le moment où elle serait prise en charge. Il s'agit évidemment d'un soulagement pour la famille qui voit enfin les choses bouger. La famille, qui estime avoir fait économiser 2,3 millions de dollars à l'État en s'occupant de Brigitte pendant près de 50 ans, avait également interpellé le député André Bachand dans ce dossier. Dans les pages du Soleil, on nous parle d'une nageuse qui nage pour survivre et pas simplement pour flotter, puisque la nageuse combat l'anorexie. Nager pour survivre, le combat de Sarah Fournier contre l'anorexie, un texte d'Olivier Bossé. Je vais redoubler d'ardeur, je vais leur prouver ce que je vaux, oui. Je ne peux pas croire que j'ai survécu à tout ça et que je ne suis pas capable de me battre encore plus. Il ne faut jamais arrêter de se battre. Sarah Fournier fait partie des meilleures nageuses au Québec, même au Canada. Mais la semaine dernière, l'athlète de 22 ans de Loretteville a échoué dans sa tentative de se qualifier pour les championnats du monde de cet été, malgré une 2e place sur 50 mètres libres au championnat canadien, et Natation Canada a décidé qu'elle n'irait pas non plus aux Jeux panaméricains. Échec difficile à encaisser à 1 an des qualifications olympiques pour Tokyo 2020. Mais Fournier a combattu bien pire que les secondes d'un chronomètre ou les décisions d'une fédération. Elle a déjà plongé au plus profond du puits de l'anorexie, a vu la mort en face et en est revenue. Les médecins ne comprennent pas comment je suis encore en vie. Quand j'étais au pire, mon cœur battait 19 fois par minute, alors qu'un rythme cardiaque normal avoisine les 70 fois par minute. C'est horrible quand j'y pense, a-t-elle confié au Soleil jeudi, en marge des championnats de l'Est du Canada de natation tenus au PEPS jusqu'à dimanche. J'ai perdu un méchant bout de cette année-là, je n'en garde aucun souvenir. À 19 battements, j'étais comateuse. J'ai été hospitalisée à 3 reprises sur une période d'environ 1 an et demi, 2 ans. Avant de rentrer, je nageais 2 fois par jour et je courais 40 minutes par jour sans manger. Ou une carotte dans ma journée, une bébé carotte, raconte-t-elle en riant, assise dans le petit bureau du club de natation de Québec. Mais ce n'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Elle avait 15 ans. Alors, autour de 5 pieds 11, elle en mesure maintenant 6 et 1. J'ai encore grandi il n'y a pas longtemps, j'étais découragée. Son poids a chuté jusqu'à un très dangereux 42 kilos, 92 livres pour 5 pieds 11. peut-être même moins. Mais j'avoue ne plus m'en souvenir, dit celle qui n'en a toujours pas trop à 155, 160 livres. Imaginez la moitié. Les psychiatres vont dire qu'il y a un profil type 2, personne à risque, mais on est tous à risque, avance-t-elle. C'est pourquoi elle tient à parler de l'anorexie, maladie mentale encore taboue et mal comprise par la plupart des gens, selon elle. Dans son cas, c'est après avoir été victime de viol que ce qu'elle nomme les distorsions a vraiment pris le dessus. Une agression sur laquelle elle s'ouvre depuis à peine un an et dont elle ne souhaite pas discuter davantage en public, même si elle la portera pour toujours. De là à dire qu'elle a voulu s'autodétruire, se donnant la mort à petit feu, il n'y a qu'un pas. Probablement inconsciemment, je voulais juste disparaître, mais mourir n'était pas mon but premier. J'avais perdu un certain contrôle avec certains événements et j'ai essayé de rattraper ce contrôle-là dans la bouffe. Ça aurait pu être avec le ménage ou n'importe quoi d'autre. J'ai voulu rattraper un contrôle que j'avais perdu pendant un bout. La nourriture est devenue l'objet unique de toutes ces distorsions. J'ai toujours eu un métabolisme d'enfer. Pour moi, manger 24 pouces de Subway pour dîner, c'est normal. Oui, oui, deux sous-marins de 12 pouces au complet. Maintenant, je mange 7000 calories par jour pour maintenir mon poids, alors qu'une femme doit en moyenne manger autour de 2000 calories. La natation de compétition fait partie de sa vie depuis plus d'une quinzaine d'années déjà. Dès l'âge de 5 ans, l'enfant très actif qu'elle était voulait plus que tout apprendre à faire des virages dans la piscine. Sa mère monoparentale avec trois filles a aussitôt inscrite son aîné au club. « J'ai fait plein de sports, mais j'ai toujours plus aimé la natation. J'ai dû arrêter pendant un an parce que physiquement, je n'étais plus capable, pas parce que je ne voulais pas. La natation m'a peut-être tué, mais elle m'a sauvé en même temps, et je lui en suis reconnaissante aussi, un peu, laisse-t-elle tomber. » Jusqu'aux Jeux olympiques, elle espère, pour l'an prochain, se qualifier. Pour ce faire, elle doit améliorer son meilleur temps aux 50 mètres libres de 6 dixièmes de seconde. Aussi bien dire une éternité. C'est énorme, mais c'est faisable, conclut la jeune femme qui n'en est pas à son premier défi de taille. Allez, toujours dans les pages du soleil, puisqu'on n'avait pas encore parlé de Donald Trump aujourd'hui, je le fais, voilà. On apprend, c'est un texte de l'agence France Presse, que Trump a envisagé un instant de nommer sa fille Ivanka à la tête de la Banque mondiale. Son argument, ben c'est clair, elle est bonne avec les chiffres. Allez, budget ontarien, les conservateurs ne visent pas le déficit zéro, ça nous vient aussi du droit, et c'est quelque chose qui reprend en gros la nouvelle qu'on avait lue tout à l'heure. Les progressistes conservateurs de Doug Ford en Ontario n'atteindront pas l'équilibre budgétaire pendant le mandat actuel. On parle de hausse modeste en santé, l'alcool et les plaques pour financer une partie du déficit. L'éducation y échappe quand même un peu plus et il n'y a pas de baisse d'impôts. Toujours dans les pages du droit, l'hôpital de Pontiac est en difficulté. Il y a une double rupture de service qui est prévue. C'est Justine Mercier qui en parle dans le droit. Une double rupture de service frappe l'hôpital du Pontiac qui n'aura ni chirurgien ni obstétricien de garde pour la fin de semaine. Selon ce qu'indique le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, ça c'est le CISSSO, on devrait criminaliser les acronymes de plus de 4 lettres. Le bris de service en chirurgie générale s'étendra de 8 heures samedi matin jusqu'à 8 heures lundi matin. En obstétrique, le service est interrompu depuis 8 heures vendredi matin et reprendra lundi à 8 heures. Les cas de traumatologie sont dirigés vers le centre de traumatologie le plus près, selon le cas, note le CISO, en précisant que les chirurgiens des hôpitaux de Gatineau et de Hull se concertent pour assurer le suivi de la condition clinique des patients. Voyez-vous, le temps supplémentaire obligatoire, c'est pour les infirmières, pas pour les médecins. Un mot encore pour vous parler de Tristan Blouin. Tristan Blouin, c'est un beau petit garçon avec des grands yeux bleus et un regard un peu triste. Bras cassés à l'école, c'est inadmissible, Marie-Ève Lafontaine. Quand on demande à Tristan Blouin comment il se sent à l'école, sa réponse brise le cœur. « Je me sens inquiet », répond-il du haut de ses 9 ans. Il s'est fait casser un bras par un intimidateur et, par la suite, les trois adultes qui l'ont examiné n'ont rien constaté. Ils lui ont même demandé de continuer sa journée. Allez, une courte pause, mais avant, je vous parle de ce conducteur qui a été acquitté, même si la police l'a surpris avec une bière entre les jambes au Saguenay. Voyez-vous, on lui a pas laissé le temps normal avant de prendre son haleine, ce qui fait que, comme il venait de prendre une gorgée, ça pouvait fausser les tests. Bref, il s'en est tiré avec une bière entre les jambes au volant. On fait une courte pause, donc, et on revient avec les nouvelles canadiennes.
Exactly how you hear. Is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time. She was the real thing. I had to walk away.
See,
don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. I'm locked down. I wonder where she came from. I wonder where she's gotta go. Who's to say she's single? Who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone.
Alright, here's the thing, here's the thing.
That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. I spent my whole life looking behind my back. I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. Up, feeling the burn, all strung out. I finally learned that trapped in, you can't do a thing because you're locked down. Ah.
puisque c'est son anniversaire aujourd'hui à Herbie Hancock. Alors, c'était Herbie Hancock et John Mayer pour la chanson Stitch Me Up.
Merci, Mathieu. On commence par une toute petite nouvelle, une bonne nouvelle en fait, parce qu'on le sait, les gouvernements aiment bien faire des annonces, annoncer des nouveaux programmes, des crédits d'impôt et tutti quanti. Cependant, il y a une bonne partie des gens qui n'en profitent pas parce qu'ils ne sont pas au courant. Or, signature d'une nouvelle entente de partenariat entre l'Office des personnes handicapées du Québec et le curateur public. L'OPHQ vient de conclure une entente de partenariat avec le curateur public du set communautaire, précise les modalités de collaboration entre les deux organismes afin de fournir de l'information juste, précise et pertinente aux personnes handicapées, à leurs familles et à leurs proches, et ce, peu importe si ces personnes s'adressent au curateur ou à l'office. En effet, il est souvent difficile pour ces personnes d'avoir accès facilement à de l'information complète et à jour sur les nombreux programmes, mesures et services pouvant les concerner. Bref, vous avez fait des promesses, c'est bien que vous vous organisiez pour que les gens puissent les tenir. On s'en va donc, tel que promis, vers le reste du Canada et on y va à vélo avec une Québécoise, Marie-Claude Molnar, qui représentera le Québec au championnat canadien sur piste. Ça nous vient du Courrier du Sud. Marie-Claude Molnar est l'une des 13 cyclistes sélectionnées pour évoluer sous la bannière québécoise lors des championnats canadiens sur piste cadet U17, junior U19 et paracyclistes qui seront disputés à Milton en Ontario du 12 au 14 avril. Pour les athlètes d'âge junior, c'est l'occasion de faire la démonstration de leurs talents et de réaliser les standards pour les épreuves chronométrées en vue d'une sélection pour les mondiaux. Les paracyclistes, eux aussi, doivent rencontrer des standards de temps afin d'obtenir une place sur l'équipe nationale pour la saison à venir et plus particulièrement pour les Jeux panaméricains, a indiqué l'entraîneur de l'équipe du Québec, Pascal Choquette. Nous avons une bonne délégation et nous serons bien représentés, autant pour les épreuves de peloton que pour les épreuves chronométrées, a-t-il ajouté. Alors, bonne chance, Marie-Claude. De Tignish au nord à Memramcook au sud de Rogersville à Souris, les municipalités hôtesses du Congrès mondial acadien 2019 dévoilent leur programmation. Ça nous vient du Courrier de la Nouvelle-Écosse, Moncton, du 11 au 23 mars dernier. Du 11 au 23 mars dernier, le Congrès mondial acadien 2019 a procédé conjointement avec ses municipalités hôtesses au dévoilement de sa programmation communautaire. Les détails ont été dévoilés par les municipalités aux dates qui correspondaient à leur journée d'activité pendant le CMA 2019 en août. En effet, dans le cadre de cette sixième édition du Congrès mondial acadien, chaque municipalité hôtesse aura une journée spéciale qui lui sera réservée. Lors de cette journée, la majorité des activités seront concentrées dans une ou deux municipalités. Ainsi, si des visiteurs veulent profiter au maximum des festivités, ils pourront suivre le parcours proposé par le calendrier du CMA et participer à un grand nombre des activités offertes sans rien manquer. La programmation préparée par les municipalités est riche et diversifiée, allant d'activités familiales en plein air jusqu'à de grands spectacles extérieurs, en passant par des expériences culinaires proprement acadiennes et des célébrations de la culture et des traditions de par chez nous. Chaque municipalité a fait un travail incroyable pour mettre en valeur notre belle région hôtesse, affirme la présidente du Congrès mondial acadien 2019, Claudette Thériault. Il y a des activités pour tous les goûts et l'ensemble de la programmation se complémente tellement bien. C'est inspirant de voir l'enthousiasme et la passion démontrée par nos partenaires dans l'organisation de leur journée. Il est clair que tout le monde a à cœur le rayonnement de l'Acadie et du CMA, du Congrès mondial. Alors, si vous ne savez pas quoi faire au mois d'août, l'Acadie vous attend.
Oh mon snobaï, la tirisigne, la te confiange sabine de verre, la teus menina de saia curte, da fazer parte na coladeira, nova coisa nos mocidade, da mirador de dar a vista. Oh mon snobaï, la tirisigne,
teus menininhos de saia curta, da fazer parte na coladeira, não vai gozar mais mocidade, na mirador de bela vista. Não tome timba, não pode inspirar, para não ter nada a conquistar que espiola. Danças pretoas e falas no vídeo, mas cuidados de um serpintinha, cabelos frisados de fitirinha. Toma cuidado de um serpintinha, cabelos frisados de fitirinha. O moço não vai, estranho no espírito, movidos é lá de Sabina de Vera, que as menininha tá exibir, sem vaidade, sem brincadeira. Não vai gozar agora que não pode, tudo tá acabado quando não morrer. O moço não vai, estranho no espírito, movidos é lá de Sabina de Vera, que as menininha tá exibir, sem vaidade, sem brincadeira. Não vai gozar agora que não pode, tudo tá acabado quando não morrer. Não toma um metinho para não poder inspirar, para não ter lata de conquista que espiola. Danças pretoas e falas no vídeo, toma cuidado de um serpintinha, cabelos frisados, desfitirinha. Toma cuidado de um serpintinha, cabelos frisados, desfitirinha. Lata com finhanga, Sabina de Vera, lata é os menininha de saia curta, da fazer parte na coladeira. Não vai gozar nós mocidade, na mirador de bela vista. O moço não vai, estranho no espírito, movido é lá de Sabina de Vera, que as menininha tá exibir, sem vaidade, sem brincadeira. Não vai gozar com que não pode, tudo tá acabado quando não morrer. Não toma um metinho para não poder inspirar, para não ter lata de conquista que espiona. Danças pretoas e falas no vídeo, toma cuidado de um serpintinha, cabelos frisados, desfitirinha. Toma cuidado de um serpintinha, cabelos frisados, desfitirinha. Toma cuidado de um serpintinha, cabelos frisados.
Oui, la magnifique Cesaria Evora et la chanson Serpentina.
Quelques instants pour vous parler de la photo lauréate du très prestigieux concours World Press Photo. Il s'agit de photographies de presse, bien sûr. Près de 80 000 clichés sont soumis au jury cette année. Et celle qu'on a choisie est proprement bouleversante. On y voit une petite fille qui pleure, presque un bébé. Elle est entre une voiture et les jambes de sa mère qui est en train de se faire fouiller par un agent de l'immigration. L'enfant s'appelle Yanella. Sa mère, évidemment, est une immigrée hondurienne. La photo était tellement troublante, en fait, que le service de l'immigration a tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas d'un cas où on avait séparé la mère et l'enfant. Allez, l'immortel est encore très actif. Gilles Vigneault à la Place des Arts à l'automne. Ça nous vient de QMI. Le grand Gilles Vigneault sera de passage à la 5e salle de la Place des Arts les 30 septembre, 1er, 13 et 14 octobre 2019, le temps de 4 représentations supplémentaires exceptionnelles de son spectacle Paroles et musique. L'artiste offre depuis 2014 cette proposition intimiste dans laquelle il réalise le rêve de lier une conversation avec le public. Au dire de Gilles Vigneault, « Paroles et musique » est un alliage parfait entre la rencontre et le concert. Le monument de Natasha Kwan, qui célébrait ses 90 ans en 2018, échange, questionne, improvise et chante avec l'auditoire dans cette prestation de mélodie et de discussion. Gilles Vigneault est entouré sur scène de l'animatrice Françoise Guénette et du pianiste Philippe Noireau dans « Paroles et musique ». Les billets pour ces nouveaux rendez-vous avec Gilles Vigneault à Montréal sont en pré-vente dès maintenant. Précipitez-vous parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ça ne durera pas. Et le grand public pourra s'en procurer à compter du 13 avril à la billetterie de la Place des Arts. Allez, il y a une chose dans la vie que je regrette en littérature, c'est d'avoir déjà lu Dune et donc de ne pas pouvoir revivre ce grand moment de découverte. Bon, je vous l'avoue, je suis un fan de science-fiction, c'est mon péché en littérature. Eh bien, sachez qu'on est en train de retourner le film Dune. C'est Denis Villeneuve qui est à la barre et on nous annonce qu'il a même embauché un linguiste parce que, voyez-vous, pour parler des langues extraterrestres, ça ne nuit pas d'avoir quelqu'un qui structure le langage. Sur la planète média ce matin, la grande nouvelle, c'était le départ d'Alain Gravel de son émission du matin à Radio-Canada. Isabelle Paré nous en parle. La course pour le renouvellement de l'auditoire aura eu raison d'Alain Gravel, Morning Man depuis 2015 de l'émission matinale du Grand Montréal à la radio de Radio-Canada. Un geste qui s'inscrit dans un vent de changement amorcé pour la prochaine saison par le diffuseur public. Je ne peux pas donner de détails sur les changements à venir, mais c'est sûr que les auditoires sont en évolution. Nous devons nous renouveler constamment, a indiqué jeudi Caroline Jamet, directrice générale radio et audio à la SRC, précisant qu'une proposition renouvelée serait bientôt annoncée pour ce segment très concurrentiel du matin à la radio. Selon nos informations, la nouvelle n'a été annoncée que jeudi matin aux membres de l'équipe, alors que le principal intéressé avait déjà été informé que Gravel le matin quittait la grille horaire. La personne qui lui succédera serait connue d'ici deux semaines. Les rumeurs vont déjà bon train dans la grande maison radio-canadienne pour savoir qui ravira ce siège convoité, occupé pendant deux saisons par Marie-France Bazot et pendant 15 ans par René Aumirois. On se rappellera qu'à l'arrivée d'Alain Gravel au micro de la matinale, les cotes d'écoute s'étaient montrées décevantes, mais avaient ensuite grimpé constamment pour se tailler une place enviable derrière le roi de ce créneau matinal, Paul Arcan, à l'antenne du 98.5 depuis 15 ans. C'est certain que les cotes d'écoute font partie des choix, mais d'autres facteurs aussi. On est deuxième dans le marché à Montréal. On va bâtir là-dessus, a indiqué Mme Jamet. Alain Gravel gardera un pied à la première chaîne à la faveur d'une émission hebdomadaire du samedi dévolue aux événements de la semaine et mènera aussi de grandes entrevues de fond avec des personnalités. L'ex-animateur de l'émission phare d'affaires publiques Enquête retournera également au petit écran au service de l'information pour réaliser des documentaires. Bien que je sois un peu triste de quitter mon rendez-vous matinal, je me réjouis des nouveaux défis qu'on m'offre, a indiqué l'animateur dans le communiqué publié par Radio-Canada. C'est avec joie que le service de l'information retrouve ce journaliste solide et rigoureux, a ajouté la directrice générale de l'information à la SRC, Luce Julien. Ce changement a lieu dans la foulée de nombreux autres récemment annoncés aux grilles Radio et télé, notamment le départ de Catherine Perrin pour faire place à Penelope McQuaid au créneau du matin à la radio, alors qu'André Robitaille, d'entrée principale, cédera le tapis à Sébastien Diaz dans un nouveau concept. Alors, Gad Elmaleh, ces temps-ci, se défend. Gad Elmaleh, c'est cet humoriste français qui, à ce jour, demeure à peu près le seul qui ait réussi à imiter convenablement l'accent québécois. Il faut le reconnaître les mérites qu'il a. On l'accuse beaucoup de plagiat ces temps-ci. Gad Elmaleh se défend et renvoie la faute sur le public. Les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Philippe Melbourne-Dufour, Le Journal de Montréal. Aujourd'hui, deux mois après qu'on l'eût accusé d'avoir volé des blagues à de nombreux humoristes de renom, incluant des Québécois, Gad Elmaleh a tenté de remettre les pendules à l'heure dans une entrevue. De passage au micro de Nikos Aliagas sur les ondes d'Europe 1, l'humoriste de 47 ans s'est défendu des accusations dont il est la cible en affirmant que plusieurs confondent plagiat et inspiration. « Mon métier d'humoriste ne se limite pas à une liste de blagues. Ce que je propose, c'est un regard, une vision du monde. Les gens ne savent pas comment ça fonctionne », a affirmé l'humoriste, ajoutant que l'humour est un métier d'observation et que les observations n'appartiennent à personne. Elmaleh a donné un exemple pour illustrer son point de vue. « Vous mettez un plat dans le micro-ondes et au moment de le sortir, il est brûlant à l'extérieur et froid à l'intérieur. C'est le point de départ d'une observation. Et après, libre à vous de dire ce que vous voulez là-dessus. » Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller sur YouTube et voir des vidéos où on voit en parallèle les blagues de Gad Elmaleh et d'humoristes dont il s'inspire. Parfois, beaucoup, je dirais.
Tu t'ennuies trop, regarde dans le ciel. Tu pourras voir comme une lumière qui avance lentement. D'abord on croit en une étoile, c'en est pas une, c'est moi dans un Spoutnik. Si tu penses que c'est trop petit pour un comme moi et mon gabarit, faut dire ce n'est pas mon corps qui voyage. Moi je suis dans mon lit, mais mon esprit lui est dans un Spoutnik. Six milliards de solitude, six milliards ça fait beaucoup. Six milliards de solitude, six milliards ça fait beaucoup. Seul ensemble. Ce que j'y fais ne regarde personne, mais puisque tu me le demandes si gentiment, je vais te le dire ce que j'y cherche. Tout simplement, juste un endroit à mettre à l'envers et poser mon Spoutnik. Poser là mon satellite, où c'est la fête, où les gens ne s'en font plus pour quelques heures, mais qui retourneront là d'où ils viennent, plus fort, plus vrai, à demi invincible. Six milliards de solitude, six milliards ça fait beaucoup. 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. Le seul ensemble, 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. Seul ensemble.
Daniel Bélanger et sa chanson « Dans un Spoutnik ».
Merci Mathieu. Oui. Et en terminant cette émission, quelques sujets plus légers. Ben enfin légers. Vous savez, quand ça va mal, À Rio, il a plu. Il a beaucoup, beaucoup plu. Et comme Rio est une ville entourée de favelas bâties sur des côtes très à pic, je ne vous dis pas les problèmes d'inondation, de glissement, d'instabilité que ça cause, ça a même causé des morts, voyez-vous. Eh bien, quand tout va vraiment mal, vous sortez de chez vous en essayant de sauver vos meubles et vous tombez sur un caïman. Déjà frappé de plein fouet avec par les inondations causées par les pluies diluviennes qui ont semé le chaos à Rio de Janeiro, les habitants d'une favela ont eu la désagréable surprise de se retrouver nez à nez avec des caïmans. Les sauriens étaient maintenus en captivité par un habitant de la favela de Rolas, dans le quartier de Santa Cruz, dans l'ouest de Rio, et se sont échappés mardi après l'effondrement d'un mur emporté par les eaux. Les services municipaux de préservation de l'environnement ont confirmé avoir mobilisé une équipe pour tenter de retrouver les caïmans sans préciser leur nombre. Mais leur tâche s'annonce ardue, non pas à cause du danger que représentent les caïmans, mais en raison de l'insécurité qui règne au quotidien dans cette favela sous le joug des trafiquants de drogue. Je vous le dis, quand ça va mal, ça va mal. Une note un peu plus positive en finissant, que je vous parle de Jason et Kate, qui sont tous les deux officiers dans la US Air Force. Ils se mariaient à Las Vegas et ils ont eu des surprises pendant leur mariage, puisque l'officiant était Jimmy Kernell par écran interposé. Il est venu animer directement leur mariage et les déclarer mari et femme. Après quoi, voyez-vous, le comédien, David Spade, s'introduit dans la cérémonie pour porter le toast. Et au moment où on pensait que le bonheur était à son comble, les portes s'ouvrent et Céline Dion vient leur chanter quelque chose. Il y a des mariages comme ça qui se passent pas comme prévu. Encore un mot pour vous inviter à lire, si vous en avez la chance, le texte de José Blanchette paru dans Le Devoir, une chronique donc sur la liberté aujourd'hui qui mérite d'être lue. Pour ma part, c'est tout et ça conclut cette émission du 12 avril 2019. Je remercie Mathieu Tessier à la mise en onde, Christiane Campagna et Catherine Bourderon à la recherche. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.